franceinter.fr.
Depuis quand l'homme et le chien sont-ils les meilleurs amis du monde? Une nouvelle publication précise ce lien et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Salut Tom.
Alan.
Salut Sam.
Salut Lassie, ça a l'air d'aller ma fille.
Elle est magnifique Sam. Je suis sûr Tom que t'as jamais vu une chienne aussi belle.
C'est bien ce que je disais à ma bourgeoise l'autre soir Sam. Je disais que de mémoire d'homme, dans tout le Yorkshire, on n'a jamais vu une chienne comme Lassie. En tout cas, depuis que je suis venu au monde, je n'en ai jamais vu. Et c'est la vérité.
Voilà, c'est en 1943, il est bon de le préciser, la fidèle Lassie de Wilcox. On s'intéresse donc aujourd'hui au premier chien domestiqué à la une de la science. L'analyse génétique d'une côte de loup découverte en Sibérie vient reculer l'âge de la domestication du chien de quelques 10 000 ans. Pour en parler, nous sommes en ligne depuis Chypre avec vous, Jean-Denis Vigne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéozoologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis nous sommes en ligne également avec Lyon. Morgane Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléogénomicienne à l'ENS de Lyon. Alors petite précision tout de suite sur votre intitulé. Qu'est-ce que c'est exactement comme discipline?
Alors en fait, on fait de la paléogénomique. Donc paléo, tout ce qui est ancien. Génomique, tout ce qui a trait au génome. Donc on étudie principalement l'ADN dégradé. Donc issu de restes principalement, pour mon cas, anciens. Donc comme les restes de chiens... ont été analysés lors de cette étude.
Exactement. Jean-Denis Vigne, une simple côte de loup justement. La paléogénétique peut réécrire toute l'histoire des relations entre le chien et l'homme simplement avec cette pièce à conviction?
Oh, bien sûr que non. La question comporte la réponse pratiquement. Non, mais en même temps, c'est une donnée supplémentaire. Nous avons très peu d'éléments sur les origines du chien et chaque donnée supplémentaire, et celle-ci est réellement intéressante, permet d'alimenter le débat et de progresser lentement pour déchiffrer une histoire qui est probablement très compliquée.
Alors que nous apprend cette côte de loup exactement?
Alors elle nous montre que le loup de Taïmyr, puisque c'est de ce loup qu'il s'agit, a divergé d'autres loups à une date qui est pratiquement similaire à celle de la divergence du chien par rapport au loup. Mmh. Et comme cette côte... Pardon.
Oui, je vous en prie.
Comme cette côte a été datée par le carbone 14 de manière tout à fait fiable, aux environs de 27 000, les auteurs proposent de situer la divergence entre le chien et le loup à cette date-là.
Et donc, Morgane Olivier, c'est l'ADN de cette côte qui nous permet de montrer ces divergences. Comment fait-on?
Alors tout à fait, on extrait l'ADN à partir de l'ossement, on séquence et on obtient donc une séquence d'ADN. Donc là, ils ont séquencé le génome mitochondrial, donc c'est plusieurs dizaines de milliers de paires de bases qu'ils ont après comparé en fait avec des séquences mitochondriales, donc du même ADN chez des loups anciens, des loups actuels et des chiens actuels. Voilà, et on regarde les relations de parenté entre toutes ces séquences.
Alors Jean-Denis Vigne, justement, ces chercheurs suédois vont plus loin en faisant reculer de 10 000 ans l'âge de la domestication. Est-ce que vous contestez un petit peu cette proposition ou vous êtes plutôt d'accord?
Alors, vous savez, il faut reculer la date pour certains chercheurs et pour d'autres, ils la rajeunissent un peu puisque nous sommes depuis plusieurs années parmi les chercheurs qui travaillent sur cette question-là, dans une discussion qui oppose tout un groupe de scientifiques qui pensent que la domestication du chien a eu lieu dès 35 000, voire 40 000 avant Jésus-Christ, et d'autres qui considèrent que les preuves les plus fiables de la domestication datent aux environs de 15 000, 16 000 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, là, on a une date supplémentaire qui est entre les deux, qui nous donne aussi une idée de la région dans laquelle a pu se produire cette divergence. Mmh. Mais comme je le disais, la domestication du chien, c'est un événement sans doute très compliqué qui s'est déroulé pratiquement dans tout l'ancien monde et sur une période, comme on le voit, qui couvre entre 35 000 et 15 000. Donc vous voyez, c'est plus compliqué que ça, quoi.
Donc ce qui montre bien que personne n'est d'accord sur la question, en tout cas, hein, effectivement.
Oui, ce qui montre surtout que nous sommes tous les gens qui s'intéressent à ce sujet apportent leurs pierres, que c'est un débat difficile, que toutes ces pierres sont importantes, et celle-ci est importante, mais que on va continuer à progresser, à accumuler des données, et peut-être qu'on arrivera à mieux savoir où et quand le chien a été domestiqué.
Qu'est-ce qui est vraiment intéressant donc chez ce loup de Taïmyr, Morgane Olivier, en enlevant les controverses?
Alors, ce qui est intéressant, selon moi, c'est pas forcément de placer l'accent sur le fait que c'est un ancien ou de reculer l'âge de la domestication. C'est le fait qu'on retrouve ici une nouvelle lignée de loups qu'on ne connaissait pas, un loup du Pléistocène dont on ne retrouve pas la trace actuellement. Et ça montre qu'il y a une variabilité ancienne qu'on ne connaissait pas et qui reste à explorer pour comprendre mieux la diversité actuelle des chiens et des loups, en fait.
Jean-Denis Vigne, on va parler de réchauffement climatique beaucoup dans ce club des Têtes au Carré. Il faut dire que la façon justement dont a été découverte cette côte est liée précisément au réchauffement de la planète. Hein.
Oui, oui, enfin, bien sûr, le réchauffement actuel provoque la fonte des glaces un peu partout dans le monde, en altitude et en haute latitude. Et ça met au jour un certain nombre de cadavres d'animaux et d'humains, pourquoi pas, qui ont été emprisonnés dans les glaces il y a fort longtemps, durant les temps glaciaires. Évidemment, c'est une documentation d'un intérêt considérable, c'est une documentation unique.
Qu'est-ce que vous cherchez à Chypre en ce moment, Jean-Denis Vigne ?
Ah, moi, en ce moment, je suis en train de fouiller un site extraordinaire qui s'appelle Pimonast, dans lequel on a les plus anciens villages insulaires de Méditerranée. Et ce sont des villages qui datent du tout début de l'agriculture, juste avant la domestication des ongulés, et dans lesquels on a quand même des indices de relations très étroites avec, en particulier, là, avec un petit sanglier chypriote local.
Très bien. Mais écoutez, histoire d'hommes, d'animaux et d'archéologie, grâce à vous, et donc cette publication, nouvelle proposition autour de la domestication du chien. Donc, Axel, moins 26.
Une nouvelle proposition.
Merci Jean-Denis Vigne et Morgane Olivier pour vos précisions. Voilà, Axel, passez un bon week-end.
Merci.
On peut écouter cette une, évidemment, comme toujours.
Les podcasts, tous les jours, 10 minutes en plus du dossier.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le LHC fraîchement rénové qui bat tous les records. Le grand accélérateur de particules de Genève vient de pulvériser son propre record d'énergie de collision en faisant s'écraser l'un contre l'autre deux trains de protons à une énergie de 13 trillions électron-volts. C'est 5 trillions de plus que son précédent record de 2013. Des résultats de très bon augure donc pour les recherches à très haute énergie prévues pour juin et dont les résultats sont très attendus. La chasse aux lions et aux léopards est à nouveau ouverte dans les parcs naturels de Zambie. À peine 2 ans après son interdiction, cette réouverture soumise à des quotas suscite de vives réactions. Selon le gouvernement, la population de plus de 4 millions d'Afrique en augmentation est largement suffisante pour une chasse encadrée. Et de leur côté, bien sûr, les associations de protection qui n'en dénombrent que 1500 considèrent que cette décision est catastrophique et rappellent que le lion d'Afrique est toujours classé vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et puis enfin, pour terminer, la consommation de café aurait-elle un effet bénéfique sur l'activité sexuelle des hommes? Ce lien statistique amusant vient d'être mis en évidence par des chercheurs texans. Ils ont remarqué que les hommes consommant 2 à 3 tasses de café par jour présentaient 42% de chances en moins de souffrir d'impuissance. Alors, stat à la con ou non, les chercheurs expliquent que la caféine amorcerait une série d'effets menant à une relaxation des corps caverneux du pénis, pouvant sensiblement améliorer la dysfonction érectile. Le café, mieux que le Viagra, évidemment, Jérôme Bollandi, ça vous intéresse.
Hein. C'est toujours le problème de la causalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a vraiment un lien? Moi, je me souviens de l'histoire de... Chaque fois que je prends un café, docteur, j'ai mal à l'œil.
Oui.
Et enlever la cuillère. Voilà. Oui. C'est... Y a
ça
pas
s'appelle
de lien.
Une stat à la con, comme l'appelle notre ami Dominique Dupin.
C'est les stats imbéciles. les enfants nourris au sein réussissent mieux à l'école que les enfants nourris au biberon. Peut-être parce que les mamans sont plus riches, s'occupent plus d'eux, elles ont plus le temps. Enfin, voilà. Le lien de cause à effet. Pas...
Voilà, c'est toujours amusant d'en parler. En tout cas, voici une belle stat à la con pour le week-end.